Voltaire, Candide ou l'optimisme. Chapitre 26. D'un souper que Candide et Martin firent avec 6 étrangers et qui ils étaient. Un soir que Candide, suivi de Martin, allait se mettre à table avec les étrangers qui logeaient dans la même hôtellerie, un homme à visage couleur de suie l'aborda par derrière et, le prenant par le bras, lui dit « Soyez prêt à partir avec nous, n'y manquez pas ». Il se retourne et voit Cacambo. Il n'y avait que la vue de Cunégonde qui put l'étonner et lui perdre davantage. Il fut sur le point de devenir fou de joie. Il embrasse son cher ami. « Cunégonde est ici sans doute. Où est-elle? Mène-moi vers elle, que je meure de joie avec elle. » « Cunégonde n'est point ici, dit Cacambo. Elle est à Constantinople. » « Ah, ciel, à Constantinople !»« Mais fût-elle à la Chine, j'y vole, partons !»« Nous partirons après souper, dit Cacambo. Je ne peux vous en dire davantage. Je suis esclave, mon maître m'attend. Il faut que j'aille le servir à table. Ne dites mot, soupez et tenez-vous prêt. » Candide, partagé entre la joie et la douleur, charmé d'avoir revu son agent fidèle, étonné de le voir esclave, plein de l'idée de retrouver sa maîtresse, le cœur agité, l'esprit bouleversé, se mit à table avec Martin, qui voyait de sang-froid toutes ses aventures, et avec 6 étrangers qui étaient venus passer le carnaval à Venise. Cacambo, qui versait à boire à l'un de ces 6 étrangers, s'approcha de l'oreille de son maître sur la fin du repas, et lui dit « Sire, votre majesté partira quand elle voudra. Le vaisseau est prêt. » Ayant dit ces mots, il sortit. Les convives étonnés se regardaient sans proférer une seule parole, lorsqu'un autre domestique s'approchant de son maître lui dit « Sire, la chaise de votre majesté est à Padoue et la barque est prête. » Le maître fit un signe et le domestique partit. Tous les convives se regardèrent encore, et la surprise commune redoubla. Un troisième valet, s'approchant aussi d'un troisième étranger, lui dit « Sire, croyez-moi, votre majesté ne doit pas rester ici plus longtemps, je vais tout préparer. » Et aussitôt il disparut. Candide et Martin ne doutèrent pas alors que ce fut une mascarade du carnaval. Un quatrième domestique dit au quatrième maître « Votre majesté partira quand elle voudra, et sortit comme les autres. » Le cinquième valet en dit autant au cinquième maître. Mais le sixième valet parla différemment au sixième étranger, qui était auprès de Candide. Il lui dit, « Ma foi, sire, on ne veut plus faire crier à votre majesté, ni à moi non plus, et nous pourrions bien être coffrés cette nuit. Vous et moi, je vais pourvoir à mes affaires. Adieu. » Tous les domestiques ayant disparu, les 6 étrangers, Candide et Martin, demeurèrent dans un profond silence. Enfin, Candide le rompit. « Messieurs, dit-il, voilà une singulière plaisanterie. Pourquoi êtes-vous tous rois? Pour moi, je vous avoue que ni moi ni Martin, nous ne le sommes. » Le maître de Cacambo prit alors gravement la parole et dit en italien, « Je ne suis point plaisant, je m'appelle Achmet III. J'ai été consultant plusieurs années, je détrônais mon frère, mon neveu m'a détrôné, on a coupé le cou à mes vizirs. J'achève ma vie dans le vieux sérail, mon neveu, le consultant Mahmoud, me permet de voyager quelquefois pour ma santé, et je suis venu passer le carnaval à Venise. » Un jeune homme qui était auprès d'Achmet parla après lui, et dit, « Je m'appelle Ivan, j'ai été empereur de toutes les Russies. J'ai été détrôné au berceau, mon père et ma mère ont été enfermés. On m'a élevé en prison. J'ai quelquefois la permission de voyager, accompagné de ceux qui me gardent. et je suis venu passer le carnaval à Venise. » Le troisième dit « Je suis Charles-Édouard, roi d'Angleterre. Mon père m'a cédé ses droits au royaume, j'ai combattu pour les soutenir, on a arraché le cœur à 800 de mes partisans, et on leur en a battu les joues. J'ai été mis en prison, je vais à Rome faire une visite au roi mon père, détrôné ainsi que moi et mon grand-père, et je suis venu passer le carnaval à Venise. » Le quatrième prit alors la parole et dit « Je suis roi des Polaques. Le sort de la guerre m'a privé de mes états héréditaires. Mon père a éprouvé les mêmes revers. Je me résigne à la Providence comme le sultan Achmet, l'empereur Ivan et le roi Charles-Édouard, à qui Dieu donne une longue vie, et je suis venu passer le carnaval à Venise. » Le cinquième dit « Je suis aussi roi des Polaques. J'ai perdu mon royaume deux fois, mais la Providence m'a donné un autre état dans lequel j'ai fait plus de bien que tous les rois des Sarmates ensemble n'en ont jamais pu faire sur les bords de la Vistule. Je me résigne aussi à la Providence et je suis venu passer le carnaval à Venise. » Il restait au sixième monarque à parler. « Messieurs, dit-il, je ne suis pas si grand seigneur que vous, mais enfin j'ai été roi tout comme un autre. Je suis Théodore. On m'a élu roi en Corse, on m'a appelé votre majesté, et à présent à peine m'appelle-t-on monsieur. J'ai fait frapper de la monnaie et je ne possède pas un denier. J'ai eu deux secrétaires d'État et j'ai à peine un valet. Je me suis vu sur un trône et j'ai longtemps été à Londres en prison sur la paille. J'ai bien peur d'être traité de même ici, quoique je sois venu, comme vos majestés, passer le carnaval à Venise. » Les cinq autres rois écoutèrent ce discours avec une noble compassion. Chacun d'eux donna 20 sequins au roi Théodore pour avoir des habits et des chemises. Candide lui fit présent d'un diamant de 2000 sequins. « Quel est donc, disaient les cinq rois, cet homme qui est en état de donner 100 fois autant que chacun de nous, et qui le donne ? Êtes-vous roi aussi, monsieur ? Non, messieurs, et n'en ai nulle envie. » Dans l'instant qu'on sortait de table, il arriva dans la même hôtellerie 4 altesses sérénissimes qui avaient aussi perdu leurs états par le sort de la guerre et qui venaient passer le reste du carnaval à Venise. Mais Candide ne prit pas seulement garde à ces nouveaux venus. Il n'était occupé que d'aller trouver sa chère Cunégonde à Constantinople. Chapitre 27. Voyage de Candide à Constantinople. Le fidèle Cacambo avait déjà obtenu du patron turc qui allait reconduire le sultan Achmet à Constantinople qu'il recevrait Candide et Martin sur son bord. L'un et l'autre s'y rendirent après s'être prosternés devant sa misérable hôtesse. Candide, chemin faisant, disait à Martin « Voilà pourtant 6 rois détrônés avec qui nous avons soupé, et encore dans ces 6 rois il y en a un à qui j'ai fait l'aumône. Peut-être y a-t-il beaucoup d'autres princes plus infortunés. Pour moi, je n'ai perdu que 100 moutons, et je vole dans les bras de Cunégonde. Mon cher Martin, encore une fois, Pangloss avait raison, tout est bien. » « Je le souhaite, dit Martin. Mais, dit Candide, voilà une aventure bien peu vraisemblable que nous avons eue à Venise. On n'avait jamais vu, ni ouï compter, que 6 rois détrônés soupassent ensemble au cabaret. « Cela n'est pas plus extraordinaire, dit Martin, que la plupart des choses qui nous sont arrivées. Il est très commun que des rois soient détrônés, et à l'égard de l'honneur que nous avons eu de souper avec eux, c'est une bagatelle qui ne mérite pas notre attention. Qu'importe avec qui l'on soupe, pourvu qu'on fasse bonne chère. » À peine Candide fut-il dans le vaisseau qu'il sauta au cou de son ancien valet, de son ami Cacambo. « Eh bien, lui dit-il, que fait Cunégonde ? Est-elle toujours un prodige de beauté ? M'aime-t-elle toujours ? Comment se porte-t-elle? Tu as sans doute acheté un palais à Constantinople. Mon cher maître, répondit Cacambo, Cunégonde lave les écuelles sur le bord de la Propontide, chez un prince qui a très peu d'écuelles. Elle est esclave dans la maison d'un ancien souverain nommé Ragotsi, à qui le grand turc donne 3 écus par jour dans son asile. Mais ce qui est bien plus triste, c'est qu'elle a perdu sa beauté et qu'elle est devenue horriblement laide. Ah, belle ou laide, dit Candide, je suis honnête homme et mon devoir est de l'aimer toujours. Mais comment peut-elle être réduite à un état si abject avec les 5 ou 6 millions que tu avais emportés? Bon, dit Cacambo, ne m'en a-t-il pas fallu donner 2 au seigneur Don Fernando d'Ibarra y Figueroa, y Mascarenes, y Lampourdos, y Souza, gouverneur de Buenos Aires, pour avoir la permission de reprendre Mademoiselle Cunégonde? Et un pirate ne nous a-t-il pas bravement dépouillés de tout le reste? Ce pirate ne nous a-t-il pas menés au cap de Matapan, à Milo, à Nicarie, à Samos, à Petra, aux Dardanelles, à Marmara, à Scutari? Cunégonde est la vieille serve chez ce prince dont je vous ai parlé, et moi je suis esclave du sultan détrôné. Que d'épouvantables calamités enchaînées les unes aux autres, dit Candide. Mais après tout, j'ai encore quelques diamants, je délivrerai aisément Cunégonde. C'est bien dommage qu'elle soit devenue si laide. Ensuite, se tournant vers Martin, que pensez-vous, dit-il, qui soit le plus à plaindre? De l'empereur Ahmed, de l'empereur Ivan, du roi Charles-Édouard ou de moi? Je n'en sais rien, dit Martin. Il faudrait que je fusse dans vos cœurs pour le savoir. Ah, dit Candide, si Pangloss était ici, il le saurait, et nous l'apprendrait. Je ne sais, dit Martin, avec quelle balance votre Pangloss aurait pu peser les infortunes des hommes et apprécier leur douleur. Tout ce que je présume, c'est qu'il y a des millions d'hommes sur la terre, 100 fois plus à plaindre que le roi Charles-Édouard, l'empereur Ivan et le sultan Ahmed. Cela pourrait bien être, dit Candide. On arriva en peu de jours sur le canal de la mer Noire. Candide commença par acheter Cacambo fort cher, et sans perdre de temps, il se jeta dans une galère avec ses compagnons pour aller sur le rivage de la Propontide chercher Cunégonde, quelque laide qu'elle pût être. Il y avait dans la chourme 2 forçats qui ramaient fort mal, et à qui le Levanti patron appliquait de temps en temps quelques coups de nerf de bœuf sur leurs épaules nues. Candide, par un mouvement naturel, les regarda plus attentivement que les autres galériens, et s'approcha d'eux avec pitié. Quelques traits de leur visage défiguré lui parurent avoir un peu de ressemblance avec Pangloss et avec ce malheureux jésuite, ce baron, ce frère de Mademoiselle Cunégonde. Cette idée l'émut et l'attrista. Il les considéra encore plus attentivement. « En vérité, dit-il à Cacambo, si je n'avais pas vu pendre Maître Pangloss, et si je n'avais pas eu le malheur de tuer le baron, je croirais que ce sont eux qui rament dans cette galère. » Au nom du baron et Pangloss, les 2 forçats poussèrent un grand cri, s'arrêtèrent sur leur banc et laissèrent tomber leur rame. Le Levanti patron accourait sur eux et les coups de nerf de bœuf redoublaient. « Arrêtez, arrêtez, seigneur !» s'écria Candide. « Je vous donnerai tant d'argent que vous voudrez. »« Quoi, c'est Candide ?» disait l'un des forçats. « Quoi, c'est Candide ?» disait l'autre. « Est-ce un songe ?» dit Candide. « Veillais-je ? Suis-je dans cette galère ? Est-ce là, monsieur le baron, que j'ai tué ? Est-ce là, maître Pangloss, que j'ai vu pendre ? C'est nous-mêmes ! C'est nous-mêmes » répondait-il. « Quoi, c'est là ce grand philosophe ?» disait Martin. « Et monsieur le Levanti patron, dit Candide, combien voulez-vous d'argent pour la rançon de monsieur de Thundertentronckh, un des premiers barons de l'Empire, et de monsieur Pangloss, le plus profond métaphysicien d'Allemagne ?»« Chien de chrétien, répondit le Levanti patron, puisque ces 2 chiens de forçats chrétiens sont des barons et des métaphysiciens, « qui est sans doute une grande dignité dans leur pays, tu m'en donneras 50 000 sequins. Vous les aurez, monsieur. Ramenez-moi comme un éclair à Constantinople, et vous serez payé sur le champ. Mais non, menez-moi chez mademoiselle Cunégonde. » Le Léventipatron, sur la première offre de Candide, avait déjà tourné la proue vers la ville, et il faisait ramer plus vite qu'un oiseau ne fend les airs. Candide embrassa 100 fois le baron et Pangloss. « Et comment ne vous ai-je pas tué, mon cher baron ? Et mon cher Pangloss, comment êtes-vous en vie après avoir été pendu ? Et pourquoi êtes-vous tous deux aux galères en Turquie ? Est-il bien vrai que ma chère sœur soit dans ce pays ? Disait le baron. « Oui, répondait Cacambo. « Je revois donc mon cher Candide, s'écriait Pangloss. Candide leur présentait Martin et Cacambo. Ils s'embrassaient tous, ils parlaient tous à la fois. La galère volée, ils étaient déjà dans le port. On fit venir un juif à qui Candide vendit pour 50 000 sequins un diamant de la valeur de 100 000, et il lui jura par Abraham qu'il n'en pouvait donner davantage. Il paya incontinent la rançon du baron et de Pangloss. Celui-ci se jeta aux pieds de son libérateur et les baigna de larmes. L'autre le remercia par un signe de tête et lui promit de lui rendre cet argent à la première occasion. « Mais est-il possible que ma sœur soit en Turquie ? » disait-il. « Rien n'est si possible, » reprit Cacambo, « puisqu'elle écure la vaisselle chez un prince de Transylvanie. » On fit aussitôt venir deux juifs. Candide vendit encore des diamants, et ils repartirent tous dans une autre galère pour aller délivrer Cunégonde. Chapitre 28. Ce qui arriva à Candide, à Cunégonde, à Pangloss, à Martin, etc. Pardon encore une fois, dit Candide au baron. Pardon, mon révérend père, de vous avoir donné un grand coup d'épée au travers du corps. N'en parlons plus, dit le baron, je suis un peu trop vif, je l'avoue. Mais puisque vous voulez savoir par quel hasard vous m'avez vu aux galères, je vous dirai qu'après avoir été guéri de ma blessure par le frère apothicaire du collège, je fus attaqué et enlevé par un parti espagnol. On me mit en prison à Buenos Aires dans le temps que ma sœur venait d'en partir. Je demandai à retourner à Rome auprès du père général. Je fus nommé pour aller servir d'aumônier à Constantinople auprès de monsieur l'ambassadeur de France. Il n'y avait pas 8 jours que j'étais entré en fonction, quand je trouvai sur le soir un jeune icoglan très bien fait. Il faisait fort chaud. Le jeune homme voulut se baigner. Je pris cette occasion de me baigner aussi. Je ne savais pas que ce fût un crime capital pour un chrétien d'être trouvé tout nu avec un jeune musulman. Un cadi me fit donner 100 coups de bâton sous la plante des pieds et me condamna aux galères. Je ne crois pas qu'on ait fait une plus horrible injustice. Mais je voudrais bien savoir pourquoi ma sœur est dans la cuisine d'un souverain de Transylvanie, réfugié chez les Turcs. Mais vous, mon cher Pangloss, dit Candide, comment se peut-il que je vous revoie ? Il est vrai, dit Pangloss, que vous m'avez vu pendre. Je devais naturellement être brûlé, mais vous vous souvenez qu'il plut à verse lorsqu'on allait me cuire. L'orage fut si violent qu'on désespéra d'allumer le feu. Je fus pendu parce qu'on ne put mieux faire. Un chirurgien acheta mon corps, m'emporta chez lui et me disséqua. Il me fit d'abord une incision cruciale, depuis le nombril jusqu'à la clavicule. On ne pouvait pas avoir été plus mal pendu que je l'avais été. L'exécuteur des hautes œuvres de la Sainte Inquisition, lequel était sous-diacre, brûlait à la vérité les gens à merveille, mais il n'était pas accoutumé à pendre. La corde était mouillée et glissa mal. Elle fut mal nouée, Enfin, je respirais encore. L'incision cruciale me fit jeter un si grand cri que mon chirurgien tomba à la renverse, et croyant qu'il disséquait le diable, il s'enfuit en mourant de peur et tomba encore sur l'escalier en fuyant. Sa femme accourut au bruit d'un cabinet voisin. Elle me vit sur la table étendue avec mon incision cruciale. Elle eut encore plus peur que son mari, s'enfuit et tomba sur lui. Quand ils furent un peu revenus à eux, j'entendis la chirurgienne qui disait au chirurgien « Mon bon, de quoi vous avisez-vous aussi de disséquer un hérétique ? Ne savez-vous pas que le diable est toujours dans le corps de ces gens-là ? Je vais vite chercher un prêtre pour l'exorciser. » Je frémis à ce propos et je ramassai le peu de force qui me restait pour crier « Ayez pitié de moi !» Enfin, le barbier portugais s'enhardit. Il cousit ma peau, sa femme même eut soin de moi. Je fus sur pied au bout de 15 jours. Le barbier me trouva une condition et me fit laquais d'un chevalier de Malte qui allait à Venise. Mais mon maître n'ayant pas de quoi me payer, je me mis au service d'un marchand vénitien et je le suivis à Constantinople. Un jour, il me prit fantaisie d'entrer dans une mosquée. Il n'y avait qu'un vieil imam et une jeune dévote très jolie qui disait ses pâtes notres. Sa gorge était toute découverte. Elle avait entre ses deux tétons un beau bouquet de tulipes, de roses, d'anémones, de renoncules, d'hyacinthes et d'oreilles d'ours. Elle laissa tomber son bouquet, je le ramassai et je lui remis avec un empressement très respectueux. Je fus si longtemps à le lui remettre que l'imam se mit en colère, et voyant que j'étais chrétien, il cria à l'aide. On me mena chez le cadi, qui me fit donner 100 coups de latte sous la plante des pieds, et m'envoya aux galères. Je fus enchaîné précisément dans la même galère et au même banc que monsieur le baron. Il y avait dans cette galère 4 jeunes gens de Marseille, 5 prêtres napolitains et 2 moines de Corfou, qui nous dirent que de pareilles aventures arrivaient tous les jours. Monsieur le baron prétendait qu'il avait essuyé une plus grande injustice que moi. Je prétendais, moi, qu'il était beaucoup plus permis de remettre un bouquet sur la gorge d'une femme que d'être tout nu avec un icogland. Nous disputions sans cesse, et nous recevions 20 coups de nerf de bœuf par jour, lorsque l'enchaînement des événements de cet univers vous a conduit dans notre galère, et que vous nous avez rachetés. Eh bien, mon cher Pangloss, dit Candide, quand vous avez été pendu, disséqué, roué de coups, et que vous avez ramé aux galères, avez-vous toujours pensé que tout allait le mieux du monde ? Je suis toujours de mon premier sentiment, répondit Pangloss, car enfin je suis philosophe, il ne me convient pas de me dédire. Leibniz ne pouvant pas avoir tort, et l'harmonie préétablie étant d'ailleurs la plus belle chose du monde, aussi bien que le plein et la matière subtile. Chapitre 29. Comment Candide retrouva Cunégonde et la vieille. Pendant que Candide, le baron, Pangloss, Martin et Cacambo contaient leurs aventures, qu'ils raisonnaient sur les événements contingents ou non contingents de cet univers, qu'ils disputaient sur les effets et les causes, sur le mal moral et sur le mal physique, sur la liberté et la nécessité, sur les consolations que l'on peut éprouver lorsqu'on est aux galères en Turquie, ils abordèrent sur le rivage de la Propontide à la maison du prince de Transylvanie. Les premiers objets qui se présentèrent furent Cunégonde et la vieille qui étendaient des serviettes sur des ficelles pour les faire sécher. Le baron pâlit à cette vue. Le tendre amant Candide, en voyant sa belle Cunégonde embrunie, les yeux éraillés, la gorge sèche, les joues ridées, les bras rouges et écaillés, recula 3 pas, saisi d'horreur, et avança ensuite par bon procédé. Elle embrassa Candide et son frère, on embrassa la vieille. Candide les racheta toutes deux. Il y avait une petite métairie dans le voisinage. La vieille proposa à Candide de s'en accommoder en attendant que toute la troupe eût une meilleure destinée. Cunégonde ne savait pas qu'elle était enlaidie. Personne ne l'avait avertie. Elle fit souvenir Candide de ses promesses avec un ton si absolu que le bon Candide n'osa pas la refuser. Il signifia donc au baron qu'il allait se marier avec sa sœur. « Je ne souffrirai jamais, dit le baron, une telle bassesse de sa part et une telle insolence de la vôtre. Cette infamie ne me sera jamais reprochée. Les enfants de ma sœur ne pourraient entrer dans les chapitres d'Allemagne. Non, jamais ma sœur n'épousera qu'un baron de l'Empire. » Cunégonde se jeta à ses pieds et les baigna de larmes. Il fut inflexible. « Maître fou, lui dit Candide, je t'ai réchappé des galères. J'ai payé ta rançon, j'ai payé celle de ta sœur. Elle l'avait ici des écuelles, elle est laide. J'ai la bonté d'en faire ma femme, et tu prétends encore t'y opposer. Je te retuerai si j'en croyais ma colère. » « Tu peux me tuer encore, dit le baron, mais tu n'épouseras pas ma sœur de mon vivant. » Chapitre 30 Conclusion. Candide, dans le fond de son cœur, n'avait aucune envie d'épouser Cunégonde, mais l'impertinence extrême du baron le déterminait à conclure le mariage, et Cunégonde le pressait si vivement qu'il ne pouvait s'en dédire. Il consulta Pangloss, Martin et le fidèle Cacambo. Pangloss fit un beau mémoire par lequel il prouvait que le baron n'avait nul droit sur sa sœur et qu'elle pouvait, selon toutes les lois de l'Empire, épouser Candide de la main gauche. Martin conclut à jeter le baron dans la mer. Cacambo décida qu'il fallait le rendre au léventier patron et le remettre aux galères, après quoi on l'enverrait à Rome au père général par le premier vaisseau. La vie fut trouvée fort bon. La vieille l'approuva. On n'en dit rien à sa sœur, la chose fut exécutée pour quelque argent, et on eut le plaisir d'attraper un jésuite et de punir l'orgueil d'un baron allemand. Il était tout naturel d'imaginer qu'après tant de désastres, Candide marié avec sa maîtresse et vivant avec le philosophe Pangloss, le philosophe Martin, le prudent Cacambo et la vieille, ayant d'ailleurs apporté tant de diamants de la patrie des anciens Incas, mèneraient la vie du monde la plus agréable. Mais il fut enfriponné par les Juifs qu'il ne lui resta plus rien que sa petite métairie. Sa femme, devenant tous les jours plus laide, devint acariâtre et insupportable. La vieille était infirme et fut encore de plus mauvaise humeur que Cunégonde. Cacambo, qui travaillait au jardin et qui allait vendre des légumes à Constantinople, était excédé de travail et maudissait sa destinée. Pangloss était au désespoir de ne pas briller dans quelque université d'Allemagne. Pour Martin, il était fermement persuadé qu'on est également mal partout. Il prenait les choses en patience. Candide, Martin et Pangloss disputaient quelquefois de métaphysique et de morale. On voyait souvent passer sous les fenêtres de la métairie des bateaux chargés d'Effendi, de Bacca, de Cadi, qu'on envoyait en exil à Lemos, à Mytilène, à Erzeroum. On voyait venir d'autres Cadi, d'autres Bacca, d'autres Effendi, qui prenaient la place des expulsés, et qui étaient expulsés à leur tour. On voyait des têtes proprement empaillées qu'on allait présenter à la sublime porte. Ces spectacles faisaient redoubler les dissertations, et quand on ne disputait pas, l'ennui était si excessif que la vieille osa un jour leur dire « Je voudrais savoir lequel est le pire. ou être violé 100 fois par des pirates nègres, d'avoir une fesse coupée, de passer par les baguettes chez les Bulgares, d'être fouetté et pendu dans un auto da fé, d'être disséqué, de ramer en galère, d'éprouver enfin toutes les misères par lesquelles nous avons tous passé, ou bien de rester ici à ne rien faire. C'est une grande question, dit Candide. Ce discours fit naître de nouvelles réflexions, et Martin surtout conclut que l'homme était né pour vivre dans les convulsions de l'inquiétude ou dans la léthargie de l'ennui. Candide n'en convenait pas, mais il n'assurait rien. Pangloss avouait qu'il avait toujours horriblement souffert, mais ayant soutenu une fois que tout allait à merveille, il le soutenait toujours et n'en croyait rien. Une chose acheva de confirmer Martin dans ses détestables principes, de faire hésiter plus que jamais Candide et d'embarrasser Pangloss. C'est qu'ils virent un jour aborder dans leur métairie Paquette et le frère Giroflée, qui étaient dans la plus extrême misère. Ils avaient bien vite mangé leurs 3 000 piastres, s'étaient quittés, s'étaient raccommodés, s'étaient brouillés, avaient été mis en prison, s'étaient enfuis, et enfin, frère Giroflée s'était fait turc. Paquette continuait son métier partout et n'y gagnait plus rien. « Je l'avais bien prévu, dit Martin à Candide, que vos présents seraient bientôt dissipés et ne les rendraient que plus misérables. Vous avez regorgé 2 millions de piastres, vous et Cacambo, et vous n'êtes pas plus heureux que frère Giroflée et Paquette. « Ah ah !» dit Pangloss à Paquette, « le ciel vous ramène donc ici, parmi nous. Ma pauvre enfant, savez-vous bien que vous m'avez coûté le bout du nez, un œil et une oreille ? Comme vous voilà faite, et qu'est-ce que ce monde ?» Cette nouvelle aventure les engagea à philosopher plus que jamais. Il y avait dans le voisinage un derviche très fameux qui passait pour le meilleur philosophe de la Turquie. Ils allèrent le consulter. Pangloss porta la parole et lui dit « Maître, nous venons vous prier de nous dire pourquoi un aussi étrange animal que l'homme a été formé. « De quoi te mêles-tu ? » lui dit le derviche. « Est-ce là ton affaire ?»« Mais mon révérend père, » dit Candide, « il y a horriblement de mal sur la terre. »« Qu'importe, » dit le derviche, « qu'il y ait du mal ou du bien. Quand sa hôtesse envoie un vaisseau en Égypte, s'embarrasse-t-elle si les souris qui sont dans le vaisseau sont à leur aise ou non ?»« Que faut-il donc faire ?» dit Pangloss. « Te taire, » dit le derviche. « Je me flattais, » dit Pangloss, « de raisonner un peu avec vous des effets et des causes, du meilleur des mondes possibles, de l'origine du mal, de la nature de l'âme et de l'harmonie préétablie. » Le derviche, à ces mots, leur ferma la porte au nez. Pendant cette conversation, la nouvelle s'était répandue qu'on venait d'étrangler à Constantinople 2 vizirs du banc et le moufti, et qu'on avait empalé plusieurs de leurs amis. Cette catastrophe faisait partout un grand bruit pendant quelques heures. Pangloss, Candide et Martin, en retournant à la petite métairie, rencontrèrent un bon vieillard qui prenait le frais à sa porte sous un berceau d'oranger. Pangloss, qui était aussi curieux que raisonneur, lui demanda comment se nommait le moufti qu'on venait d'étrangler. « Je n'en sais rien, » répondit le bonhomme. « Je n'ai jamais su le nom d'aucun moufti, ni d'aucun vizir. J'ignore absolument l'aventure dont vous me parlez. Je présume qu'en général, ceux qui se mêlent des affaires publiques périssent quelquefois misérablement et qu'ils le méritent. Mais je ne m'informe jamais de ce qu'on fait à Constantinople. Je me contente d'y envoyer vendre les fruits du jardin que je cultive. » Ayant dit ces mots, il fit entrer les étrangers dans sa maison. Ses 2 filles et ses 2 fils leur présentèrent plusieurs sortes de sorbets qu'ils faisaient eux-mêmes, du caïmac piqué d'écorce de cédrat confit, des oranges, des citrons, des limons, des ananas, des dattes, des pistaches, du café de mocha qui n'était point mêlé avec le mauvais café de Batavia et des îles. Après quoi, les deux filles de ce bon musulman parfumèrent les barbes de Candide, de Pangloss et de Martin. Vous devez avoir, dit Candide au Turc, une vaste et magnifique terre. Je n'ai que 20 arpents, répondit le Turc. Je les cultive avec mes enfants. Le travail éloigne de nous trois grands maux, l'ennui, le vice et le besoin. Candide, en retournant dans sa métairie, fit de profondes réflexions sur le discours du Turc. Il dit à Pangloss et à Martin, « Ce bon vieillard me paraît s'être fait un sort bien préférable à celui des Sirois avec qui nous avons eu l'honneur de souper. » Les grandeurs, dit Pangloss, sont fort dangereuses, selon le rapport de tous les philosophes. Car enfin, Aiglon, roi des Moabites, fut assassiné par Aod. Absalom fut pendu par les cheveux et percé de trois dards. Le roi Nadab, fils de Jéroboam, fut tué par Baza. Le roi Éla par Zambri. Ocosias par Jéhu. Athalie par Joïada, les rois Joachim, Jéconias, Sédécias furent esclaves. Vous savez comment périr Crésus, Astyage, Darius, Denis de Syracuse, Pyrrhus, Persée, Hannibal, Jucurta, Arioviste, César, Pompée, Néron, Othon, Vitellius, Domitien, Richard II d'Angleterre, Édouard II, Henri VI, Richard III, Marie Stuart, Charles Ier, les trois Henri de France, l'empereur Henri IV. Vous savez, je sais aussi, dit Candide, qu'il faut cultiver notre jardin. Vous avez raison, dit Pangloss, car quand l'homme fut mis dans le jardin d'Éden, il y fut mis ut operatureum, pour qu'il travaillât, ce qui prouve que l'homme n'est pas né pour le repos. Travaillons sans raisonner, dit Martin, c'est le seul moyen de rendre la vie supportable. Toute la petite société entra dans ce louable dessein, chacun se mit à exercer ses talents. La petite terre rapporta beaucoup. Cunégonde était à la vérité bien laide, mais elle devint une excellente pâtissière. Paquette broda, la vieille eut soin du linge. Il n'y eut pas jusqu'à frère Giroflée qui ne rendit service. Il fut un très bon menuisier et même devint honnête homme. Et Pangloss disait quelquefois à Candide, « Tous les événements sont enchaînés dans le meilleur des mondes possibles. Car enfin, si vous n'aviez pas été chassé d'un beau château à grands coups de pied dans le derrière pour l'amour de mademoiselle Cunégonde, si vous n'aviez pas été mis à l'Inquisition, si vous n'aviez pas couru l'Amérique à pied, si vous n'aviez pas donné un bon coup d'épée au baron, si vous n'aviez pas perdu tous vos moutons du bon pays d'Eldorado, vous ne mangeriez pas ici des cédrats confits et des pistaches. » Cela est bien dit, répondit Candide, mais il faut cultiver notre jardin.